premier slide, s'il te plaît. Voilà, une question. Est-ce que vous connaissez Jacques? Je ne parle pas de Jacques Brel, qui est mort il y a combien d'années? 45. Je ne parle pas non plus de Jacques Chirac ou de Jacques Attali, homme politique. Certains vont penser à un certain cycliste qui a gagné le Tour de France à 5 reprises, Jacques Antil, je ne parle pas de lui. D'autres vont penser à un pilote automobiliste qui n'a jamais gagné grand-chose, Jacques Lafitte. Les Écossais parmi nous, et il n'y en a pas beaucoup, pourraient penser à leur roi Jacques VI, qui a autorisé la traduction de la Bible en anglais en 1611. Mais je ne parle pas de lui, je parle d'un autre Jacques qui est encore plus célèbre que tous ces Jacques ensemble. L'apôtre Jacques, qui a écrit une petite lettre qui est dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire quelques versets au début de sa lettre. Je vous invite à trouver Jacques, chapitre 1, versets 1 à 8. L'épître de Jacques, juste après les Hébreux, juste avant 1 et 2 Pierre. Jacques, chapitre 1, versets 1 à 8. Nous sommes en direct. Voilà. Jacques 1, verset 1. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées. Salut! Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproches. Et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Parole écrite par Jacques. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est de quel Jacques s'agit-il? Parce qu'il y a 5 Jacques dans le Nouveau Testament. Il y a celui qui est le frère de Jean, les fils de Zébédée, les pêcheurs avec Pierre et André. Mais il ne s'agit pas de celui-là. Il y a un autre Jacques, qui est le fils d'Alphée, dont on parle dans Marc, chapitre 10, qui est aussi sans doute le frère de Matthieu, le disciple. Mais il ne s'agit pas de celui-là. Il y a un autre, et on sait juste, tout simplement, selon Luc 6, c'est le père de Jude. Mais on ne parle pas de celui-là. Il y a un quatrième, Jacques le mineur. Non pas parce qu'il travaillait le charbon, hein, mais c'est parce qu'il était jeune, et c'était un peu son surnom, Jacques le jeune ou Jacques le mineur. Mais ce n'est pas celui-là non plus. Mais le cinquième, c'est celui-ci, le frère de Jésus, un des frères de Jésus. Les noms des frères de Jésus sont donnés dans Marc 6 et dans l'évangile de Jean. Et il est question aussi des sœurs de Jésus, donc des enfants de Joseph et de Marie, nés de façon naturelle. Jacques, le frère de Jésus. Nous ne savons pas moins de choses au sujet de ce Jacques-là. Pendant le ministère de Jésus, Jacques n'était pas converti. Il avait rejeté Jésus. Il avait rejeté le message de Jésus. Mais nous savons aussi que Jacques était un homme marié, 1 Corinthiens 9. Nous savons que Jacques a rencontré le Christ ressuscité, 1 Corinthiens 15. Et c'est certainement à ce moment-là, quand il a vu son frère ressuscité, que Jacques s'est converti, que Jacques a plié le genou devant le Seigneur. Nous savons que dans Actes chapitre 1, Jacques était présent avec les autres disciples lors de la Pentecôte. Il participait à des réunions de prière. Et nous savons que Jacques était un des tout premiers chrétiens à savoir que Pierre était libéré de la prison de façon miraculeuse dans Actes chapitre 12. Nous savons aussi que Jacques avait un rôle important dans l'église qui se réunissait à Jérusalem, dans Actes 15. Et nous savons aussi que Jacques était un des premiers à s'entretenir et avec l'apôtre Paul, peu de temps après sa conversion, et Jacques a donné la main droite à Paul pour dire « Tu es mon frère ». Parce que certaines personnes disaient « Saul de Tarse ne peut pas se convertir ». Il est trop méchant, il est trop mauvais, mais n'importe qui peut se convertir si on plie le genou et si on se repent de ses péchés. Donc il s'agit de Jacques, le frère du Seigneur Jésus, qui a écrit cette petite épître. Alors, quelques caractéristiques de cette épître avant de regarder de près le texte qu'on a lu. Première caractéristique, c'est les destinataires. Il n'écrit pas à une église précise. Vous savez, Paul écrit à l'église de Philippe, les Philippiens. Il écrit à l'église qui s'est réunie à Colosse, les Colossiens. Et ici, Jacques écrit à tous les Juifs qui sont convertis, qui sont dispersés dans le monde tout entier. À l'époque, le monde était plus petit qu'aujourd'hui. Il écrit à un groupe de chrétiens dispersés, à l'église universelle. D'ailleurs, l'épître de Jacques est appelée dans le milieu théologique une épître catholique. Non pas parce que ça appartient à l'église catholique romaine, mais parce que le mot catholique signifie universel. Donc c'est une lettre écrite à un groupe de chrétiens un peu à droite et à gauche, et non pas dans un lieu précis. Deuxième caractéristique de cette épître, ce sont des impératifs. Il n'y a que 5 chapitres, 108 versets, mais il y a une cinquantaine d'ordres ou de commandements ou d'impératifs. Résistez au diable. Approchez-vous de Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Accueillez-vous les uns les autres. Je vous laisse les compter. Plein d'impératifs. Bien que ce soit une épître courte, j'ai compté une bonne cinquantaine. Autre chose intéressante, il y a de nombreuses allusions à Matthieu 5, 6 et 7. Alors si vous vous dites, mais c'est quoi Matthieu 5, 6 et 7? Il s'agit du serment sur la montagne. Et il y a une quinzaine d'allusions ou de citations de ce texte, Matthieu 5, 6 et 7. Ce qui veut dire que Jacques, bien qu'un converti à l'époque, était là avec Jésus quand Jésus a fait cette prédication sur la montagne, qui commence avec les 8 béatitudes, heureux ceux qui, heureux ceux qui, etc., etc. Vous allez pouvoir les trouver avec ces parallèles entre l'épître de Jacques et Matthieu 5, 6 et 7. Et puis, chose intéressante, on a beaucoup parlé d'être frères et sœurs depuis le début du culte. Eh bien, c'est un thème qui est cher à Jacques. Une quinzaine de fois, on voit le mot frère, ou surtout frères et sœurs, et même parfois, frères et sœurs bien-aimés. Jacques savait qu'il faisait partie de la famille de Dieu. Et cela a été dit et redit ici, parmi nous. Plusieurs références à l'Ancien Testament. Encore, c'est une petite épître. Mais Jacques connaissait bien l'Ancien Testament, qui, bien sûr, pour lui, était sa Bible. Il fait allusion à Abraham, à Rahab, à Job, à Élie, aux prophètes en général. Il connaissait bien l'Ancien Testament. Et Jacques était convaincu de l'importance de la parole de Dieu. Convaincu de l'importance de la lecture de la Bible. Et il appelle la Bible la loi parfaite. Il appelle la parole de Dieu la loi royale. Et aussi la loi de la liberté. Une autre caractéristique, c'est le nombre de thèmes qui sont abordés dans l'épître de Jacques. Il y a toute une liste de thèmes. Je vais vous les dire. La prière, la tentation, les épreuves, la colère, la reconnaissance, la lecture de la Bible, la bonté de Dieu, l'hypocrisie, l'orgueil, le favoritisme, la foi, les œuvres, la langue, les mauvais désirs, la prière, le travail, la médisance, l'injustice sociale, la corruption, le retour du Christ, la patience, l'honnêteté, la souffrance, la maladie, les chrétiens qui s'éloignent de Dieu. Je reprends mon souffle un petit peu. Hein. Respire un bon coup. Tout ça veut dire que si vous ne vous sentez pas concerné par ces thèmes-là, ne lisez pas l'épître de Jacques. Mais je vous encourage tous à lire cette épître. Je viens de passer 3 semaines dans Jacques en lisant 2 ou 3 versets par jour. Ce n'est pas long. Mais le fait de lire, de méditer, de réfléchir, de se poser des questions et de prier selon ce qu'on lit, tout cela fait du bien. J'ai une autre façon de résumer cet épître. Vous allez trouver que j'ai un cerveau un peu tordu, bizarre, mais j'ai trouvé un acronyme avec Jacques, ok? J comme joie, juste, jalousie et Job. Tout ça, c'est dans l'épître de Jacques. A comme argent, aimer, accueillir, agir, ami, adultère, avenir, ancien, les anciens, bien sûr. C'est quoi la lettre après J et A? Merci. J'ai commencé à avoir des doutes. C comme croire, combattre, couronne, cadeau, création, coupable, commandement, conflit, cri, confiance, confesser. Q, c'est plus difficile, hein? Question, quiétude, querelle, qualifié. U, c'est encore plus difficile. Utile, unité, en tant que frères et sœurs. E, écouter, égalité, exemple, enseignant, enfer, envie, exaucement, écriture, efficacité, Élie, le prophète. S comme serviteur, savoir, sagesse, souillure, semeur ou semer, serment et sécheresse. Je vous encourage, en lisant Jacques, de prendre votre stylo et de faire quelque chose de semblable. Si vous le faites, envoyez-moi vos notes et je vais les ajouter aux miennes. Parce que je suis toujours prêt à apprendre et à voir ce que d'autres trouvent dans la parole de Dieu. Ça, c'est les thèmes. Et si on veut faire un petit plan du livre, j'ai résumé le plan du livre avec nos besoins. Notre besoin de persévérer dans la prière. Qui n'a pas besoin de persévérer dans la prière? Deuxième, notre besoin de surmonter diverses tentations. Diverses tentations. On a besoin de surmonter ça. Notre besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a une image au sujet d'un miroir qui est très parlante dans Jacques chapitre 1. Notre besoin d'être juste, honnête envers tous. Les vieux, les jeunes, les riches, les pauvres, etc., etc. Notre besoin de maîtriser notre langue. Qui maîtrise sa langue 24 heures sur 24? Parce que si vous le faites, je suis sûr que même pas dans la nuit, dans vos rêves, dans vos cauchemars, vous dites des choses que vous pourriez regretter. Besoin de maîtriser sa langue, besoin de vivre en paix. La paix dans le cœur, la quiétude dans le cœur. Besoin de résister. Non pas résister aux frères et sœurs, mais résister au diable. Et notre besoin de prier sans cesse. Nos besoins se trouvent dans cette petite épître. D'où l'exhortation que je vous laisse de lire cette épître cette semaine. 108 versets. Vous avez 7 jours, 108 divisé par 7, ça fait, on va dire, pas beaucoup de versets. Pas beaucoup de versets par jour. Alors, j'ai décidé de résumer cette lettre avec une phrase. Et je vous encourage aussi à trouver une phrase, vous-même, à me l'envoyer par email. qui sera certainement meilleure que ma phrase. Voilà la phrase. Ce que le chrétien croit, ce que le chrétien dit et ce que le chrétien fait, tout cela doit être en harmonie. Faire, dire, croire. On peut ajouter le mot être. Parce que si ce n'est pas en harmonie, quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Mensonge et hypocrite. Il y a trop d'hypocrites dans le monde. Et trop d'hypocrites. Et si on croit et on dit et on fait selon ce qu'on croit, selon ce que Dieu dit, eh bien, on ne sera jamais traité d'hypocrite. Alors, regardons un peu le début de Jacques 1, verset 1 à 8. Un peu de vocabulaire. Tout simple. Serviteur de Dieu, serviteur du Seigneur Jésus. Jacques aurait pu dire, je suis le petit frangin de Jésus. Non. Il sait qui n'est qu'un serviteur. Un esclave, c'est ça le mot, doulos, un esclave de Jésus. Et si on dit esclave, ça implique au moins trois choses. Soumission, humilité, loyauté. Sommes-nous des serviteurs de Jésus? Si c'est le cas, sommes-nous soumis? Sommes-nous humble, sommes-nous loyaux. Deuxième mot, salut. Est-ce que vous avez dit salut à quelques personnes au début du culte? Est-ce que vous allez dire salut à quelques personnes à la fin du culte? Pourquoi pas? Mais ce mot salut n'est pas une salutation banale, c'est une salutation pleine de sens. Parce que ça veut dire littéralement sois dans la joie. Réjouis-toi. Je suis sûr que chaque fois que nous disons salut, et moi le premier, je ne pense pas sois dans la joie. Réjouis-toi. Mais pensez-y. Quand vous dites salut à quelqu'un, dans le mot grec, en tout cas, c'est sois dans la joie. Réjouis-toi. Okay? Quand quelqu'un vous dit salut, eh bien, prends ça comme étant une exhortation à être dans la joie. Malgré nos circonstances, malgré nos douleurs, malgré nos nuits perturbées. Vous savez, cette semaine, on était 13 à la maison pendant quelques jours, avec enfants, petits-enfants, et les nuits étaient, on va dire, un peu mouvementées. Mais on est toujours debout. J'ai des allumettes qui tiennent mes paupières ouvertes. Vous ne les voyez pas, mais ça m'aide à être debout. Mais soyons dans la joie. Un autre mot. Divers, au verset 2, les diverses épreuves. Ce mot divers revient pas très souvent dans la Bible, mais c'est un mot qui veut dire littéralement multicolore. On a ça dans 1 Pierre 1:6 et 1 Pierre 4:10. Toutes les couleurs. Alors vous savez, si vous allez dans un magasin de bricolage, vous allez dire, je veux de la peinture pour peindre les murs de ma salle à manger. Le vendeur ou la vendeuse va vous montrer un nuancier. Et sur ce nuancier, il y a littéralement des centaines de couleurs et de tons. Et vous avez le choix, pas trop de choix. Et c'est ça l'idée de ce mot-là. On a tous diverses épreuves. Ce que vous avez supporté et subi, ce n'est peut-être pas la même chose que moi. Ce que j'ai subi, ce n'est peut-être pas la même chose que vous. Il y a un tel éventail d'épreuves qu'on peut connaître. Mais Jacques écrit pour dire que dans les épreuves, on n'est pas seul. D'ailleurs, il dit, on peut rencontrer des épreuves. C'est le mot qui veut dire tomber dedans ou être exposé à des épreuves ou côtoyer des épreuves. Qui n'a pas rencontré des épreuves cette semaine? Qui ne va pas en rencontrer la semaine prochaine? Des épreuves, des challenges, des difficultés, des défis, peu importe le mot qu'on donne. des contretemps, des imprévus. Mais dans tout cela, le Seigneur peut nous aider et nous aider à être parfaitement qualifiés. Être, ça veut dire, dans certaines Bibles, c'est le mot être parfait. Nous ne serons jamais parfaits ici, mais le mot parfait ou être qualifié, c'est un mot qui veut dire être mûr. Alors, je dois vous m'excuser auprès de vous, j'ai mis le mot mature. On dit mature, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'est un anglicisme. Et on doit remplacer le mot mature par le mot mûr. M-U, circonflexe sur le U. C'est un chapeau, circonflexe, tu vois. R-S, être mûr, être adulte. Ne plus être un gamin ou une gamine dans la foi. Dieu nous aide à mûrir dans les épreuves. Et il est question de la persévérance, le fait de supporter les épreuves, les difficultés, le fait de faire face en comptant sur l'aide du Seigneur. Deux questions me viennent à l'esprit en pensant à Jacques 1:1-8. Première question, que demander au sein de notre épreuve? Deuxième question, comment demander de quoi on a besoin? Que demander? Eh bien, demander la sagesse. Une chose, on peut demander autre chose, la paix, la persévérance, l'amour, la fidélité, etc. Mais ici, il est question de la sagesse. Et comment demander au Seigneur la sagesse? Eh bien, demander avec confiance, sans douter. C'est facile de dire ça, hein? Mais c'est possible de demander la sagesse avec foi. Et il est écrit que Dieu donnera. Il ne tiendra pas de qui nous sommes. Mais si nous demandons avec foi, il nous donnera la sagesse, la paix, la joie, l'amour, la persévérance, etc. Les premiers chrétiens avaient été prévenus. Jésus a dit dans Jean 16, « Vous aurez des tribulations. » Il n'a pas dit « Il est possible que » ou « Il est probable que » Il a dit « Il est certain. » Vous aurez des tribulations. Et lorsque Paul et Barnabas ont rendu visite à des chrétiens qui étaient convertis depuis peu, ils voulaient les encourager. Et vous savez ce qu'ils ont dit aux chrétiens pour les encourager? C'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Vous trouvez ça encourageant ou décourageant? Tu es converti, c'est formidable, mais tu vas souffrir. Prépare-toi. On doit être vrai, honnête, transparent avec nos frères et sœurs. Beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer auprès du Père. Marc et Gladys ont connu des souffrances. Un couple américain, dans les années 60, ils étaient missionnaires en Iran. N'importe qui pouvait être missionnaire en Iran avant la révolution en 79 ou 78. Ils étaient missionnaires en Iran. Et un jour, ils étaient dans la voiture, ils faisaient mauvais. Ils avaient leurs trois enfants derrière dans la voiture, âgés de 13 ans, 11 ans et 6 mois. Et un tracteur avec remorque leur est rentré dedans. Les trois enfants sont morts. Gladys était blessée un peu. Marc a passé des mois à l'hôpital. Bon, ça c'est déjà une épreuve. Mais Marc, le chauffeur, a été accusé d'homicide involontaire. Il était accusé d'être l'assassin de ses trois enfants. Ça, c'est autre chose. Être à l'hôpital, perdre ses enfants, mais être accusé d'être l'assassin. Heureusement, ils ont eu gain de cause. Il y a eu la révolution en plus. Et puis finalement, eux et d'autres missionnaires étaient éjectés du pays. Encore une épreuve. Ils ont tout laissé là-bas. Et des années plus tard, voilà ce qu'ils ont dit. Dieu ne nous a jamais laissés tombés. Son amour nous a gardés. Nous avons connu une autre dimension de son amour. Ils sont restés fidèles et ils savaient que Dieu restait fidèle. Cela me rappelle ce que j'ai déjà dit au moins une fois depuis ici, dans le passé. Cela me rappelle les trois lettres de l'alphabet que les chrétiens aiment plus que toute autre lettre. Vous vous rappelez peut-être pas. La lettre A, la lettre M et le Z. Pourquoi ces trois lettres? Eh bien, parce que Dieu nous a dans sa main, Dieu nous aime et Dieu nous aide. Ah, je vous ai eu, hein? Le A, le M et le Z. Et eux, ils pourraient dire, mais Dieu, il nous avait, il nous aimait, il nous a aidés. Une épreuve. J'ai pensé à un chrétien qui tenait un petit restaurant et qui s'est trouvé devant le tribunal parce que des clients avaient porté plainte pour trouble de l'ordre public. Quel était le trouble? Eh bien, dans ce restaurant, il y avait deux ou trois affiches avec des versets bibliques. Et des clients se sentaient offensés et ont décidé de porter plainte. Et le propriétaire se trouvait devant le tribunal. Alors vous allez me dire, mais David, c'est dans quel pays du Moyen-Orient ou du bloc communiste est-ce que ce restaurant se trouvait? Eh bien, ce restaurant se trouvait en Angleterre. Ce n'est pas que dans les pays fermés, entre guillemets, que des choses se passent comme ça. Heureusement, à une association d'avocats chrétiens ont plaidé pour sa cause et il n'a pas été jugé ou condamné. Toutes sortes de souffrances, une grande variété de souffrances. Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 19, « C'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant injustement. » Le mot « grâce » veut dire un cadeau. Dieu nous fait un cadeau, une grâce de souffrir. Pierre, dans 1 Pierre 2, 20 et 21, « Si vous endurez les souffrances alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés. » On peut dire, mais il n'y a pas une faute de frappe ou une faute théologique. On était appelés à souffrance, à la souffrance. Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, on était appelés à la gloire. Mais avant d'arriver à la gloire, parfois, souvent, toujours, de temps en temps, on connaît la souffrance. Certains connaissent le négro spirituel d'il y a 150 ans. Si tu veux connaître la gloire, tu dois porter ta croix. Et c'est ça. La souffrance avant la gloire. Souffrir pour les chrétiens, malheureusement, c'est quelque chose de normal. Les épreuves font partie du processus de la sanctification. C'est pourquoi Pierre écrit dans 1 Pierre 4, verset 12, « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Certains connaissent les chroniques de Narnia et l'auteur irlandais, tout le monde croit que c'est un anglais, mais c'était un irlandais, C.S. Lewis. Pour les chrétiens, ce qui est anormal n'est pas de souffrir, mais de ne pas souffrir. Autrement dit, ce qui est normal, c'est de souffrir. Et lui, un anglais, BCBG, il est mort d'ailleurs le même jour que Kennedy, le 22 novembre 63. Eh bien, il était intellectuel, mais il savait que parfois, des promotions lui passaient sous le nez, parce qu'en tant que prof de littérature à l'université prestigieuse d'Oxford en Angleterre, puisqu'il croyait à l'inspiration de la parole de Dieu, certaines promotions lui passaient sous le nez. On donnait tel poste à des gens qui ne parlait jamais de la Bible, qui ne croyait pas à la Bible. Et lui, tout en étant très discret, il n'avait quand même pas sa langue dans sa bouche, sa langue dans sa poche, qu'est-ce qu'on dit? Dans sa poche? Bon, bref, il savait parler et il osait parler, même si parfois il était critiqué. Mais il savait ce que c'est de souffrir. Et l'auteur Warren Wiersbe a écrit ceci dans un livre sur le livre de Job, je crois bien. Si tu veux vivre quelque chose, QQCH, quelque chose de mémorable avec le Seigneur, parfois il faut accepter d'être, pendant un temps, misérable. Mémorable, misérable. La souffrance du chrétien. Ce même auteur a dit dans un autre livre, « Nous vivons non pas grâce aux explications que le Seigneur nous donne, nous vivons grâce aux promesses que le Seigneur nous donne. » Et il aimerait bien que Dieu nous explique tout. Mais d'une part, notre cœur et notre cerveau ne pourraient pas comprendre, ou saisir ou supporter tout ce que Dieu pourrait nous donner comme explication. Mais nous vivons grâce aux promesses de Dieu. Nous avons des chers amis en Normandie qui ont eu 3 garçons et une fille. Et la fille est décédée il y a 18 mois maintenant, 23 ans. Une fille brillante, 23 ans, un cancer des sinus. Et la maman nous a dit il y a quelques semaines, quand notre fille est décédée à 23 ans, on n'a jamais dit au Seigneur pourquoi. Par contre, on s'est dit entre nous comment allons-nous vivre sans elle. Intéressant comme réflexion. Je dirais, ça montre la maturité de ces gens-là. Le cœur brisé, déchets brisés. Mais ils ont dit, Seigneur, comment allons-nous vivre? Et depuis un an et demi maintenant, ils vivent grâce aux promesses de Dieu, grâce à la présence de Dieu et grâce au fait qu'ils savent que tout est entre les mains de Dieu. Alors aujourd'hui, avec ce texte, je vous encourage d'abord à lire lentement ou rapidement ou plusieurs fois l'épître de Jacques, de vous laisser imprégner par les belles paroles de ce petit texte. Et dans nos difficultés, nos épreuves, nos challenges, nos défis, de faire confiance à celui qui nous tient dans sa main, sachant qu'il nous a, il nous aime, et c'est quoi le troisième? Il nous aide. Prions. Seigneur notre Dieu, merci car tu es un Dieu personnel. Et tu es un Père parfait pour tous tes enfants. Seigneur, tu vois les épreuves que nous traversons aujourd'hui, nous, ici dans ce bâtiment. Tu vois les épreuves que nous avons traversées, que nous allons traverser. Merci de nous rappeler constamment que tu nous as, tu nous aimes et tu nous aides. Merci. Parce que c'est tellement précieux de t'avoir comme notre bon Père céleste. Au nom de Jésus, nous t'apportons nos prières et notre adoration. Amen.